nous allons démarrer cette rencontre débat table ronde qui a pour thème le roman historique, raconter le passé, penser le présent. Alors nous avons autour de la table pour traiter ce thème Jeanne Cressange, qui a été scénariste, dialoguiste, écrivain, qui a une carrière littéraire prolifique et qui a notamment travaillé sur des romans historiques. Donc on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, Silène Edgar, écrivain qui travaille à la fois sur de l'adulte, jeunesse, avec beaucoup de thématiques, ayant exploré pas mal de facettes de la littérature. Silène est également enseignante et fondatrice d'un site, Calioprof, donc, où notamment elle rédige des chroniques à l'attention du public, et elle a notamment travaillé sur des romans historiques en littérature jeunesse, et donc on va aussi revenir sur ses travaux un petit peu plus tard. À ma gauche, Jean-Laurent Del Socorro, donc qui est auteur, qui s'affiche ouvertement comme grand lecteur passionné de SF dans toutes ses bios, de SF et de fantasy, et qui a également pratiqué le jeu de rôle. Et qui a donc à son actif notamment deux romans historiques dont on va ensuite parler. Et enfin, je termine par Joe Walton, donc, qui est originaire du Pays de Galles mais qui maintenant vit au Québec et qui écrit depuis l'âge de 13 ans, qui a écrit pas mal de choses et qui notamment en France a été connu par sa série Le Subtil Changement avec plusieurs romans dont on parlera tout à l'heure, qui sont situés dans l'environnement de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et puis, un roman qui est paru en 2017, donc des vrais enfants. Les vrais enfants, pardon. Alors, Joe, on va donc commencer par Joe. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu justement de cette série, Le Subtil Changement, qui se déroule après une Deuxième Guerre mondiale qui n'a pas tout à fait eu la fin que nous connaissons aujourd'hui.
In those books, after the fall of France, Britain decided not to keep on fighting and made a separate peace with Hitler, which in many ways would have been a sensible thing to do when you can't win a war. And Hitler couldn't understand why Churchill wouldn't do that in reality. Can't they understand that they've lost? And in the book, they made that peace in May of 1941, before the US came into the war in December. And in the first book, it's 1949, and everything up to the Channel is part of the Third Reich. France is still occupied, everything is still going on like that, and Britain is becoming more fascist. And it's the story of a country house murder mystery in that world where that's the situation. And then the second book is set just a couple of weeks later, and the third book is set 10 years after that, all in the same world.
Alors, effectivement, dans mes romans, après la chute de la France, la Grande-Bretagne n'a pas voulu continuer de lutter et a négocié une paix avec Hitler. Techniquement, quand on y réfléchit bien, c'était la chose la plus sensée à faire. Et d'ailleurs, Hitler n'a jamais compris pourquoi Churchill a refusé la paix. Il se demandait bien en se disant, bah, ils ont perdu, pourtant ils devraient bien le voir. Donc dans mes romans, la paix a été négociée en mai 1941, avant que les États-Unis n'entrent en guerre en décembre. Et du coup, dans mes romans, la France est toujours occupée, la Grande-Bretagne devient de plus en plus fasciste, et techniquement, c'est l'histoire d'un meurtre à la campagne dans ce contexte historique. Le second roman se passe quelques semaines après la fin du premier, et le troisième roman se passe 10 ans plus tard.
Alors, dans Mes vrais enfants, là, on n'est absolument pas dans le même contexte. Ici, il s'agit d'une vieille femme qui se souvient de son passé, mais quel passé ?
It's 2015, and she's an old lady with Alzheimer's, with dementia. She's in a nursing home, and she remembers two completely different versions of her own life. And so the book contains two divergent versions of the second half of the 20th century. The divergence point is in 1949, when she either accepts or refuses a proposal of marriage. And from that point, the worlds become more different. But it's a intimate alternate history, an intimate uchrony. And it's the story of one woman's life with history going on in the background. In the way that when we tell the story of the big events of history, we say where we were on the day when the plane hit the Twin Towers, where we were, when we heard about something, as we are part of history, rather than we're the people who affect history. And it's very much that kind of story.
Alors effectivement, dans ce moment-là, ça se passe en 2015, c'est l'histoire d'une vieille femme qui souffre d'Alzheimer et qui est dans une maison spécialisée et qui se rappelle de son passé, sauf qu'elle a deux passés différents. Et du coup, en fait, ce livre raconte deux versions différentes de la deuxième partie du XXe siècle. Tout bascule comme en 1949, elle accepte d'un côté une demande en mariage et de l'autre, elle ne l'accepte pas. Et c'est là que tout change. C'est une uchronie très intime. Et c'est l'histoire d'une vie avec juste l'histoire avec un grand H en arrière-plan, de la même façon que quand nous vivons un événement historique, on s'en rappelle par rapport à ce qui nous est arrivé en même temps. Par exemple, quand les avions se sont frappés les Twin Towers, les tours jumelles, tout le monde se rappelle où il était quand il l'a appris. On se rappelle de l'histoire par rapport à notre vie à nous, et c'était vraiment ça que je voulais raconter.
And one more thing about that book is, as far as I know, it is the only uchrony which is an alternate history of the European Union. So much is about World War II and about American history when you read alternate history, but that is an alternate history of the European Union in many ways.
Alors, autant que je sache, c'est la seule uchronie qui parle d'une Union européenne différente. Parce que souvent, quand on parle d'une histoire alternative, on parle de la Seconde Guerre mondiale ou de l'histoire des États-Unis. Et là, c'est, à ma connaissance, la seule qui parle de l'Union européenne.
Alors, puisqu'on parle de l'histoire de l'Union européenne, on peut, là, pour le coup, on est quand même dans un univers assez large. Si on réduit Jeanne Cressanges dans les romans historiques que vous avez produits, là, on est dans quelque chose qui, finalement, est beaucoup plus local, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'histoire des Vosges. Donc je voulais notamment aborder trois romans qui ont été marquants. Le Soleil des Pierres, où on est aux premières années du 20e siècle, avec Antoine, ce tailleur de pierre imagié. Dans le culte d'Isis, on est en 1824, et on découvre la vie de Marie-Sophie, l'épouse d'un papetier. Et là, on est au tournant qui a suivi, le grand tournant qui a suivi la révolution de 1789, et surtout dans le luthier de Mirecourt, là on est à l'automne 1788, où on a un luthier qui raconte les péripéties de sa vie, et où on découvre finalement un peu la petite histoire des Vosges à travers tout ça.
Oui, alors je dois dire que je suis tombée dans le roman dit historique tout à fait par hasard. J'avais déjà une petite carrière d'écrivain et tous mes romans étaient des romans qui se passaient dans les temps actuels. Et puis c'est tout à fait par hasard que j'ai écrit Le luthier de Mirecourt, étant donné que dans un roman précédent, j'avais eu besoin d'un renseignement pour il fallait que je demande à un luthier qu'est-ce que je pouvais imaginer pour un petit accident sur un instrument, sur un violon. Parce qu'en fait, moi, j'essaye du moins d'être toujours très, très précise, même dans les détails, dans mes romans. Mais ce roman, ce qui s'appelle « L'étronaissance de Virginie » est un roman qui se passait aujourd'hui. Donc, on m'a dit, comme j'habite Épinal depuis très longtemps, on m'a dit, eh bien, il faut aller voir le meilleur luthier à Mirecourt, c'est M. Pagès. Alors, j'ai été le voir, il m'a donné le renseignement, et puis, voilà, il a lu, quand le roman a paru, quand l'étronaissance de Virginie, je lui ai envoyé pour le remercier. Et alors, il a lu ce roman, alors ça m'a beaucoup étonnée, parce que c'est un homme et que c'était l'histoire de trois femmes, de trois générations de femmes, mais bon, il a beaucoup aimé, m'a-t-il dit. Et il m'a dit, mais écoutez, Jeanne Cresson, il faut écrire un roman sur nous, sur les luthiers. Alors naturellement, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un roman sur les luthiers, et encore moins un roman historique. Ce n'était pas que je méprisais le roman historique, mais je ne me voyais pas, je ne suis pas historienne. Je ne me voyais pas écrire un roman historique. Et puis, la chose très curieuse qui s'est passée, c'est que, tout en écrivant un roman, Un amour de 48 heures, qui se passait encore aujourd'hui et maintenant, l'idée d'écrire un roman, il y a un personnage qui est venu du 18e siècle et qui m'a visité. Voilà, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, peu importe, c'est comme ça que ça s'est passé. Et dès que j'ai terminé mon roman, qui s'appelle donc Un amour de 48 heures, ce luthier s'est emparé de moi, et comme je ne savais absolument pas ce qui se passait au 18e à Mirecourt, j'ai pris rendez-vous tout de suite chez Pagès, qui a dit enfin, ça y est, elle écrit ce roman sur les luthiers que je lui ai commandé il y a déjà un an ou deux. Et alors, et c'est comme ça que c'est passé tellement et si bien que Mme Pagès dit, eh ben oui, vous avez porté l'enfant qui voulait, parce que lui, il voulait l'écrire ce roman, puis il ne l'a pas fait, il s'était bien gardé de me le dire. Et alors voilà, comment je suis tombée, voilà, dans le roman historique, c'est à cause de M. Pagès, que je n'ai pas. Alors, une fois qu'on y a goûté, ben, je crois que voilà, ça m'a plu. Naturellement, je tremblais, parce que j'avais toujours peur de faire une erreur de date, etc. J'ai pris des tas de renseignements, mais je dois dire que j'ai été beaucoup aidée par les luthiers, par tout le monde de la lutherie, et que j'ai pris un immense plaisir à écrire ce roman.
Donc, Silène, dans les choses un petit peu historiques sur lesquelles vous avez travaillé, donc, on peut citer 1414, hein, le roman fantastico-historique qui était coécrit avec Paul Behorn. Il y a eu Le Manoir en folie, un roman historique pour les 9-12 ans qui a été réédité, là, qui vient d'être réédité, ou enfin, c'est. Voilà, c'est ça, ça va sortir. Adèle et les noces de la reine Margot, qui était sortie en 2015, et tout récemment, Les lettres volées. Donc, Les lettres volées, c'est l'histoire de la fille de Madame de Sévigné. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors, sur Les lettres volées, c'est un roman donc, que j'ai écrit suite au passage de l'agrégation de lettres. J'avais les lettres de Madame de Sévigné, et la particularité de ces lettres, outre qu'elles sont très nombreuses et parfois pénibles, c'est que on n'a pas les réponses de la fille et donc pendant toute cette lecture qui était très intéressante par certains points et puis très agaçante par d'autres, je me suis dit mais cette fille comment elle pouvait être. J'ai fait des recherches et donc je me suis dit j'ai envie de raconter cette histoire là d'autant que ça rentrait dans un projet plus vaste. Moi aussi je vais dénoncer. En fait, à l'origine, pour 1414, quand on a eu envie d'écrire avec Paul, moi je pensais me tourner naturellement vers l'ASF, qui est plutôt le domaine qui m'intéresse, puisque j'ai envie de parler du futur pour parler d'aujourd'hui. Et puis Paul me dit ce serait plus intéressant d'aller dans le passé. Et donc on a fait ce lien entre les deux ados, hein, en 2014 et 1914, et on a parlé de cette première guerre comme d'un élément essentiel. essentiel, constitutif de notre histoire, pour que ces jeunes gens pour qui ça peut sembler loin comprennent un petit peu le bien, les différences, mais aussi les ressemblances. De là, j'ai continué à travailler dans cette idée avec Adèle et les Noces de la Reine Margot sur notre guerre civile et religieuse du XVIe, de la même façon, hein, comme une pierre de notre histoire. Et les lettres volées s'inscrivent aussi dedans, puisque pour moi, cette bascule, ce moment où Louis XIV prend le pouvoir réellement, se débarrasse de Fouquet après la mort de Mazarin, ça a été pour les femmes un tournant fatal, puisque on a perdu beaucoup, hein, il y avait beaucoup de femmes de lettres qui avaient une certaine voix, une certaine liberté, grâce à Fouquet qui les soutenait financièrement beaucoup, et puis qui leur laissait parole. Et Louis XIV, lui, les femmes, là, il est, à part les mettre dans son lit, il leur donnait quand même pas beaucoup de place. Hein. Et ça a été pour Madame de Sévigné, je pense, quelque chose de très compliqué à gérer, parce qu'elle a élevé sa fille de manière assez moderne. Elle ne l'a pas mise en pension, elle l'a élevée elle-même. Elle n'a eu que deux enfants qu'elle a élevés librement, parce que son mari était mort dans un duel avec sa maîtresse. Et donc, elle a élevé Françoise pour qu'elle vive comme elle quelque chose de plus libre que finalement ce que Françoise a pu avoir. Se marier avec un vieux grignon, donc c'était la troisième épouse. Et j'avais envie de montrer ça, montrer comme Madame de Sévigné a pu éduquer sa fille et imaginer que ça a dû être terrible pour elle de se dire que finalement elle ne pouvait pas lui donner ce qu'elle espérait. Voilà, donc finalement, c'est vraiment historique. Et le prochain, la réédition du Maman en folie, c'est la dernière pierre, en fait, de cet édifice historique avec la Seconde Guerre mondiale. Donc toujours dans cette idée de montrer à nos jeunes gens comment tout ça se constitue et leur poser toujours la question de quelqu'un de jeune qui se trouve confronté à une histoire complexe dans laquelle il se retrouve un peu naïf, peut-être comme eux.
Jean-Laurent, on avait eu Royaume de vent et de colère qui est paru en 2015 et dont on avait déjà discuté aux précédents imaginables, je crois me souvenir, hein, on avait eu un débat autour de ce roman. Il a eu le prix El Baki en 2015 du meilleur roman de fantasy français. Donc, on est en 1596 et moi j'ai découvert dans ce roman quelque chose que j'ignorais complètement. La ville de Marseille s'est révoltée et a décidé de prendre son indépendance. Donc, rébellion. Et en fait, on a une description très très précise de ce qui s'est passé historiquement, mais avec de la magie, avec de la fantaisie qui se mêle à cet univers-là.
Oui, c'est tout à fait ça. On est sur un cadre historique qui est très fort, et ce qui est drôle, c'est que souvent on dit quelle idée la République de Marseille, c'est une invention, c'est une uchronie, pas du tout. En fait, c'est vraiment le cadre historique fort. C'est la micro-histoire dans l'histoire, hein. il y en a partout, il y en a dans l'histoire de France, dans l'histoire du monde. Mais c'est vrai que prendre pour cadre justement un micro-détail de l'histoire qui est cette Marseille république indépendante qui résiste au roi de France Henri IV, c'est une façon intéressante en fait de nous interroger sur notre propre histoire et de dire en fait il y a tellement de choses qu'on ignore de notre propre passé. Je me semblais que c'était un débat intéressant. Au-delà de ça, effectivement, le cadre historique est vrai. Les personnages, on est sur quatre personnages, c'est ce qu'on appelle un récit choral. Quatre personnages, un vieux chevalier chrétien qui a été converti de force, ancien protestant, une ancienne mercenaire, on va suivre une chef de guilde très influente, parce qu'elle va tenter d'assassiner le chef de cette ville, et ainsi de suite. Je voulais aborder des sujets très contemporains, à la fois en invoquant les guerres de religion et Marseille, c'était une façon de parler de nos problématiques contemporaines, c'est-à-dire évoquer les problèmes de religion, de la guerre de religion, dans un contexte, alors là je suis en français, dans un contexte français, des problèmes de religion, des problèmes qu'on a eu notamment autour de la réflexion du mariage pour tous. Voilà, ça permet d'évoquer des problématiques contemporaines que moi je vis au quotidien à travers les personnages de mon époque et c'est, on se rend compte que c'est pas du tout antinomique. Ce que je revendique à travers ce roman, c'est reprendre un cadre historique, reprendre une histoire historique. Finalement, ça nous interroge aujourd'hui. Et ça me permet moi de défendre des thématiques qui me sont chères. Je pense qu'on se retrouve pas mal notamment avec Siam sur certaines thématiques. C'est remettre les personnages féminins en avant qui ne sont pas que les clichés qu'on traite malheureusement parfois dans la fantasy, mais des femmes de pouvoir, des femmes qui ont une importance et qu'on a mis de côté pour telle ou telle raison dans l'histoire. C'est aussi parler de la sexualité et de la liberté sexuelle. C'est aussi parler des couleurs de peau, il y a des arabes noirs, les rois arabes. Voilà, c'est à travers ce prisme-là, je parle de cette Marseille finalement indépendante et révoltée. C'est aussi de parler d'une révolte beaucoup plus contemporaine et de revendiquer ça.
Alors en parlant de personnages de femmes, ça m'amène au dernier roman hein, qui est tout nouveau. Hein, il est sorti en avril.
Il est sorti là-bas, oui.
Voilà. Donc Boudica. Boudica, donc reine celte, une figure de l'histoire de l'Angleterre, hein, puisqu'elle a dirigé la résistance anglaise en l'an 1 contre les Romains.
On est sur une figure. En fait, j'étais parti sur autre chose à la base, mais quand j'ai découvert moi aussi ce personnage très méconnu en France, qui est Boudica, connu aussi à la Renaissance au nom de Boadicé. Boudica, 1er siècle en Angleterre, son nom nous est connu. Parce que les Romains l'ont cité dans leur histoire romaine, et pas pour rien, parce qu'elle s'est révoltée, elle a failli les chasser d'Angleterre, en fait. Et c'était très sanglant, 80 000 morts, elle rase Londres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Londres était certes petite, aujourd'hui, une des couches archéologiques de Londres porte son nom, la couche Boudica, c'est une couche de cendres. Elle a rasé. Donc, vraiment, c'est pour dire à quel point elle a fait peur aux Romains. Donc il cite une femme guerrière qui a fait les mettre dehors, c'est pas rien. Et à travers ça, c'était de se dire, c'est fascinant comme on est aussi cloisonné dans tous les sens géographiquement, comment une héroïne qui a paradoxalement sa statue à Londres, qui est un symbole de résistance anglais, et j'ai découvert par la suite un personnage dans le monde anglo-saxon, symbole du féminisme, une certaine idéologie sur la résistance et la révolte, mais elle soit si peu connue en fait en France, même dans les pays, on va dire, plus méditerranéens. Donc le premier point par rapport à ça, par rapport à ce roman, essayer de réimaginer un peu le début de sa vie, parce qu'on ne sait rien de son début de sa vie, c'est lui rendre hommage et la faire connaître. Voilà, un personnage féminin fort, qui n'est pas qu'une guerrière, qui est une personnalité politique, aujourd'hui en tant qu'écrivain de science-fiction, écrivain tout court, c'est aussi revendiquer ça, je pense que c'est très important, en tout cas pour moi.
Alors, je voulais poser une question à nos quatre auteurs présents. Quand on travaille justement sur du matériel historique, quand on travaille sur ce type de roman, comment est-ce qu'on fait ? Il y a une part de documentation, évidemment, qui est très importante. Est-ce que le cadre historique va vous figer dans quelque chose ? Est-ce qu'au contraire, vous cherchez à vous en affranchir ? Sylène, vous me disiez que vous, c'était plutôt... un travail sur la littérature de cette époque-là qui, finalement, vous donnait votre documentation, plutôt que du matériel historique à proprement parler.
Oui, à part sur 14-14, on a dû faire beaucoup de recherches et se faire ficher par les RG parce qu'on cherchait tous les cases à utiliser en 14-18. Je me suis surtout inspirée pour Adèle de Dumas, pour les lettres volées aussi beaucoup, parce que c'était très intéressant sa façon d'aborder les choses, et puis il était très bien renseigné sur un certain nombre de choses. Et puis surtout, j'ai lu beaucoup les textes de l'époque. Moi, je suis formation littéraire, je fais des études de lettres, je me suis passionnée pour les auteurs du 16e et du 17e, et je les ai mis dans les romans. Ils m'ont nourri, et plutôt que d'aller chercher dans des livres d'histoire, alors j'en ai quelques-uns, puis en général, au bout de 50 pages, je retourne à la littérature et je m'appuie dessus. Je l'annonce hein, dans les lettres volées dès le début en disant que je prends quelques libertés sans doute parce que c'est plus un roman inspiré de la littérature qu'inspiré réellement de l'histoire. Pourtant, j'essaie évidemment de ne pas raconter n'importe quoi, surtout que je m'adresse à des jeunes gens. Il ne s'agit pas de leur mentir et de donner des éléments faux. Mais voilà, c'est ça principalement mes recherches. Ça va être surtout de revenir sans arrêt vers cette littérature. Et pas pour rien, parce que j'ai travaillé sur les théories de la réception, hein, et je me dis comment moi je lis cette littérature d'époque, et comment je fais de la littérature sur cette époque, aujourd'hui, quel cadre j'ai, c'est pas seulement le cadre historique qu'il faut que je rende correctement, j'ai aussi aujourd'hui une lecture de cette histoire que je peux pas ignorer, et qui va me servir de base, pour aborder ces questions-là. Parce que voilà, on parle d'aujourd'hui quand même, et on parle à des gens d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui de cette histoire-là fait partie pour moi de la recherche historique complètement.
Là, je parlais sur Double Nika. Le cadre historique, moi, c'est ma règle du jeu, c'est-à-dire les éléments historiques, les grandes dates, les grands événements, je ne vais pas y toucher, ça va être ma contrainte, une contrainte d'écriture forte, mais pour que ça ait du sens, je ne toucherai pas aux éléments historiques. Donc, ma liberté d'auteur, elle sera à travers les zones d'ombre, on s'est creux, en fait, la liberté de réimaginer. Il y avait une table ronde hier sur l'histoire, et justement, il pointait ça. Notre liberté, nous, en tant qu'auteur, c'est de se dire un historien peut émettre des hypothèses, mais il ne peut pas affirmer quand il n'a pas d'éléments pour étayer sa thèse. Nous, notre liberté, c'est de se dire Boudica, on connaît la fin de sa vie, on connaît à partir du moment où elle apparaît à l'âge sans doute de 20 et quelques années. Et de 0 à 20, qui elle était, comment elle est devenue ce qu'elle est devenue, eh bien, moi, je peux le faire en tant que romancier historique et me dire cette hypothèse-là, je vais la prendre et je vais la développer. Mais pour être tout à fait cohérent avec la logique historique, moi je travaille avec un groupe de relecteurs et j'ai des historiens qui travaillent avec moi et qui valident ou invalident, notamment mon premier jet d'écriture. Je soumets un premier jet d'écriture. Et voilà ce que je propose sur la théorie. J'explique quelle théorie j'ai pris par rapport au personnage de Boudica. Et il m'a valide ou invalide un certain nombre de choses. Et alors notamment pour Boudica, pour la petite histoire, c'était un grand malheur parce qu'ils m'ont validé beaucoup de détails. Donc j'étais très fier, et puis un gros morceau au milieu, on dit ça, historiquement c'est faux. Mais attendez, la partie centrale, la des 100 pages, non, c'est faux, ça ne peut pas exister. Ça fait partie du jeu, je réécris beaucoup, et voilà, ça permet d'avoir une cohérence historique réelle et crédible.
Jeanne, pour travailler justement... Vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. À chaque fois, j'avais peur de me tromper, j'avais peur d'écrire des choses qui ne soient pas cohérentes. Comment est-ce que vous avez verrouillé ça et comment est-ce que vous avez contourné cet obstacle-là?
C'est-à-dire que moi, je me suis fait beaucoup aider, enfin disons, par justement des spécialistes. Et alors, j'ai eu l'immense plaisir... quand le livre a été publié, d'avoir des témoignages de métiers qui m'ont tous dit, d'ailleurs, ils m'ont fait une petite fête. Voilà, je le dis quand même, ils m'ont fait une petite fête et nationale, vous voyez, et ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun roman qui traitait leur métier et il n'y avait pas de sottises. Ils étaient très, très heureux et moi encore plus, si je puis dire. Mais ce que je pourrais dire, puisque pour revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure, moi, j'essaye d'être très, très précise quand je traite d'un sujet historique. Mais en fait, j'essaye d'être très, très précise parce que je pense que quelquefois, la vérité vous conduit ailleurs. Mais en fait, je traite toujours un autre sujet. Et pour en venir au luthier, ce qui m'a intéressé, c'est sur cette base historique de traiter des rapports père-fille. Et tellement si bien que ça m'amuse beaucoup. C'est un roman qui est très apprécié par tous les gens qui s'intéressent à la psychologie et même à nombreux psychanalystes qui me disent que j'ai traité un autre sujet qui n'est pas celui de la lutherie, mais de cette espèce de rapport père-fille qui peut quelquefois tourner à une sorte d'inceste, disons, psychique, quoi, qui n'est pas... Parce que le luthier, ce roman, c'est un luthier qui va mourir et qui raconte sa vie à sa fille. Et sa fille est élevée comme au XVIIIe siècle, elle est extrêmement pieuse et réservée, et lui, c'est un... Bon, on va dire que c'est un être qui a bien vécu, qui a vécu de façon... il a beaucoup voyagé, il a aimé beaucoup de femmes, à la fin de sa vie, il se livre comme un confessionnal, comme il est athée, il ne veut pas aller voir le curé, et sa fille, c'est son confessionnal. Alors, vous voyez bien tout ce qui peut se passer. Au fond, c'est ça qui m'a vraiment intéressée, mais ça m'a de le placer dans le XVIIIe siècle et dans ce climat très spécial de la lutherie par rapport à une fille, parce que c'était des garçons qui faisaient les violons et en principe qui faisaient tous les instruments et qui avaient le secret du vernis, que ce soit à sa fille qu'il confie l'histoire de sa vie, ça m'a paru intéressant.
Joe Walton, vous traitez de l'histoire par un biais un peu particulier qui est l'Uchronie, c'est-à-dire une histoire détournée, une histoire divergente. Quel travail il faut faire pour arriver à construire une intrigue d'Uchronie?
Faire mes recherches pour écrire ces romans, je lis des livres d'histoire qui ne sont pas de la fiction, mais je lis également des biographies, parce que bien souvent, dans tous les livres d'histoire, on a tendance à faire des coupures entre périodes très claires, sauf que la vie des gens, elle traverse ces coupures, on s'arrête pas à une période. Et du coup, je lis aussi des biographies pour avoir une impression d'ensemble de la vie des gens. Je lis également des écrits des gens de l'époque, par exemple, je trouve que dans des lettres, on en apprend que dans des livres d'histoire. Et vous m'avez demandé comment je faisais pour écrire une histoire alternative. Moi, la question, ce serait plutôt comment on fait pour ne pas écrire, pour ne pas changer l'histoire. Parce que personnellement, quand je lis des livres d'histoire, j'ai qu'une envie, c'est de tout changer. C'est « Ah, mais et si ça s'était passé comme ça ?» Alors là, c'est pas passé loin de se passer comme ça. Donc, comment ça aurait évolué? C'est comme ça que je crée une espèce de structure. Mais en me basant sur quand même des faits qui se sont réellement passés, et je regarde ce qui peut grandir à partir de ça. Actuellement, je suis en train d'écrire un livre qui sera un mélange de romans historiques et de fantasy. Ça se passe en Italie dans les années 1490. J'ai fait beaucoup de recherches pour ça, je me suis rendue sur place également. Mais bon, c'est pas encore la même chose, parce que du coup, c'est une histoire alternative, et en même temps, c'est de la fantasy, donc c'est un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et il y a un autre roman que j'ai en tête qui se passerait dans le cadre de la Révolution française. Et alors là, ça fait des années que je fais des recherches. Je pense que j'en ferai encore pendant des années parce qu'on ne peut pas faire ça comme ça d'un coup, en fait.
Alors, le thème de ce débat, c'est effectivement raconter l'histoire, penser le présent. Donc, vous avez déjà commencé à aborder ça un petit peu tout à l'heure en disant, voilà, à travers mes écrits, je veux défendre certaines idées, certaines choses qui nous interpellent aujourd'hui. John Hampton, je voulais justement savoir, donc, dans la série Le Subtil Changement, on est donc dans cette Angleterre qui va devenir ouvertement fasciste. Est-ce qu'il n'y a pas des échos sur des événements qui se passent aujourd'hui, l'élection française donc du président de la République il y a peu de temps, enfin, les évolutions qui se passent, est-ce qu'on ne trouve pas un miroir de ça dans ces livres?
Absolument pas de ce qui se passe aujourd'hui. Ils n'étaient pas prophétiques, ces romans, normalement. Et justement, ça fait un peu peur parce que ce n'était pas un manuel d'instruction, en fait. Il ne fallait pas le suivre, hein, la trilogie.
But they came out in France last year, and also in German last year. And when Brexit happened, a lot of French and German newspapers and websites were saying, yeah, this is how Britain can be isolationist. This is how Britain can become fascist. And if you want to understand my stupid ex-country, if you want to understand what they thought they were voting for, look at these books where people are behaving terribly and British people are acting like that. And because it was a while since I'd written it, I'd actually forgotten the political details that I had put into the second about how the unelected Prime Minister had taken power, and it was exactly what Theresa May did. It really was exactly what happened, because I understand how parliamentary democracy works, and that's how you would do it. Yeah. But it's really scary and awful. I hate to think that people are using... The people need to use those books to understand present. There was supposed to be a warning, if anything, and a warning against complacency, because I think that when the English-speaking world looks at World War II, we say, oh, well, you know, the Germans elected fascists, the Italians elected fascists, France was conquered and put fascists in power, but we would never do that. We stood up against them, we beat them. It wasn't us. It was our grandparents. We don't get any credit for things that happened back then. And it could just as easily have happened in the UK if things had been slightly different, or in America or in Canada, just as easily. And when you say that something is unique and it could only happen in one place at one time, then it's putting it in a box. So you don't have to be afraid of that, because it couldn't happen now. And one of the things I wanted to say in those books, to reflect on the present, is it could happen now. It could happen. We were lucky it didn't happen to us. It could happen to us. There are books about how good people do bad things, about how we put up with bad things, and things done in our name that we should not put up with.
Alors, donc c'est, je les ai écrits entre 2004 et 2008, mais en France et en Allemagne, les livres ne sont parus que l'année dernière. Et du coup, quand le Brexit a eu lieu, aux informations, que ce soit en France ou en Allemagne, on a dit, ah ben voilà comment la Grande-Bretagne veut devenir isolationniste. Et je pense que si on essaye de comprendre mon idiot de pays, je veux bien qu'il n'est plus vraiment mon pays, si vous voulez vraiment comprendre pourquoi les gens ont voté pour le Brexit, il faut lire ces romans. J'avais oublié, d'ailleurs, vu que ça commence à dater pour moi, à quel point dans le deuxième roman il y avait un aspect politique et comment quelqu'un devenait Premier ministre sans être élu. Et c'est exactement ce que Theresa May a fait. Et en fait, c'est juste parce que je connaissais bien la démocratie parlementaire et je savais comment c'était possible, mais c'est exactement ce qu'elle a fait. Et franchement, ça me fait très peur, je trouve ça affreux. Et je pense que vraiment, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut lire ces romans. Mais c'était censé être des romans pour prévenir les gens, pour éviter que ça se produise, justement. Et ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est qu'il ne faut pas penser que... Enfin, les Britanniques ont tendance à penser, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, que l'Allemagne est devenue fasciste, l'Italie est devenue fasciste, la France s'est fait envahir et a mis un gouvernement fasciste en place. Nous, ça ne nous serait jamais arrivé. Ça ne peut pas nous arriver à nous. Sauf que techniquement, ce n'est pas nous qui avons lutté, c'est nos grands-parents. Et on dit, ah bah oui, bah nous, on a été super forts. Mais non, on n'a aucune gloire à avoir de ça, puisque ce n'est pas nous qui avons lutté. Et ça aurait aussi bien pu se produire, si les événements avaient été un peu différents, ça aurait très bien pu se produire, que ce soit en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou au Canada. Ça aurait pu très bien se produire. Et je pense qu'à partir du moment où on dit qu'un événement comme ça est unique, qu'on le met dans une boîte et qu'on se dit, bah, on n'a pas à en avoir peur parce que ça ne peut pas se produire, et bien justement, c'est bien ça le problème. On n'en a pas peur alors que ça pourrait très bien se produire encore aujourd'hui. Et ces romans expliquent également comment des gens bien agissent mal et comment on supporte que des gouvernements fassent des choses terribles en notre nom sans réagir alors qu'on devrait.
Alors, justement, les trois autres auteurs, dans quelle mesure est-ce que vous interpellez le présent à travers vos récits historiques? Comment est-ce que finalement vous arrivez à mettre des choses d'aujourd'hui dans ces histoires? Est-ce que vous avez des personnages qui vont peut-être donner des messages, tirer de l'histoire sur des leçons qu'on devrait apprendre aujourd'hui ou sur des choses sur lesquelles... Enfin, est-ce que vous essayez de faire passer des messages ou pas?
Oui. Pour moi, l'histoire, c'est beaucoup moins anxiogène que la SF parce que, comme Joe l'expliquait, des fois on écrit des choses, c'est pas de la pression, c'est juste qu'on comprend un peu le système. J'ai fait un roman de SF pour dénoncer ce que pouvait être l'état d'urgence en 2013. Je parlais d'un accident nucléaire dans une trilogie de SF pour la jeunesse juste avant Fukushima. Et l'historique, pour moi, est moins anxiogène parce que je peux... retourner dans le passé pour dénoncer des choses actuelles sans me servir de ça comme un avertissement pour ce qu'il ne faut pas faire. Parce que malheureusement, si je le sens comme ça, souvent, c'est pas parce que je suis devant, mais juste parce que c'est déjà en train d'arriver. Et plutôt me servir de ce qu'on a déjà fait pour dire, ok, on l'a déjà fait, donc on ne recommence pas. Et en particulier, par exemple, dans 42 jours, là, le roman où je l'ai reparlé au mois de juin, je parle de la Seconde Guerre, mais je parle aussi beaucoup dedans de ce que les Tziganes ont vécu à ce moment-là. Et en particulier, je dénonce très clairement à la fin le fait que les camps, le dernier camp Tzigane en France, le dernier camp de concentration Tzigane, a fermé en 1946. Donc des mois après la fin de la guerre. Et que, pourquoi? Bah parce qu'ils étaient déjà opprimés avant que les nazis n'arrivent en France et puis ils le sont restés après. Et que c'est une question qui est encore actuelle et qu'il faut qu'on traite parce que ça risque d'aller beaucoup plus loin. Exactement comme dans Adèle, quand je parle de la guerre de religion entre protestants et catholiques, je pose des questions sur nous, la façon dont on peut considérer les musulmans en France comme si c'était des gens différents, comme les catholiques ont pu massacrer les protestants à cette époque-là. Donc oui, je parle de choses concrètes aujourd'hui, pour dire, ok, on arrête là, on se pose, on réfléchit, on a déjà fait ces conneries là, on les recommence pas, quoi.
Oui, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que là, sur le traitement des romans, il y a ces deux niveaux-là. C'est le contexte historique qu'on choisit, est un écho direct sur ce que nous vivons. Dans les guerres de religion, ben, on se rend compte que le problème de la religion et des différentes de faire cohabiter différentes religions et des guerres qui en découlent. Ça a toujours été, c'est encore un avertissement pour dire arrêtons de le faire. Quand je parle de Boudicca et sur la façon dont il y a une assimilation des Romains petit à petit, enfin l'inverse, que les Romains assimilent la culture celte, c'est pour dire il y a des peuples qui avaient une façon de fonctionner avec une certaine culture, une certaine identité, où finalement ça se passait bien par rapport aux relations de femmes, par rapport à la sexualité. Il y a un modèle qui vient prendre, se dire. Est-ce qu'on ne le fait pas nous aussi de certaines façons? Donc ça, c'est le historique. La deuxième chose, c'est que si le contexte est si historique, les personnages sont très contemporains sur la façon de parler et sur la façon dont on peut s'identifier à eux. là encore, dans Royaume de Brune Colère, j'ai une capitaine de Lanskene qui est noire, j'ai une chef de guilde d'assassins qui est une femme qui, à mon avis, techniquement, ne pourrait pas être le cas, à mon avis, dans un, quelque chose d'historiquement approuvé. Nous avons j'ai un assassin qui est très érudit, qui est arabe et qui a une très forte influence sur le récit. Voilà, c'est aussi dire que j'ai un peu d'homosexuel. C'est pas revendiquer quoi que ce soit, c'est juste dire aujourd'hui notre société, elle est ça, et je veux juste parler à tout le monde et que tout le monde puisse s'identifier à ce récit, trouver un moyen de rentrer dedans pour pouvoir s'y retrouver. C'est peut-être assez naïf et un petit peu démonstratif, hein, je l'avoue, mais je trouve que c'est important aujourd'hui que dans un récit, même historique, les gens qui le lisent puissent avoir des gens qui leur ressemblent. Parce que je trouve, en tant que lecteur, c'est parfois ce qui manque.
Oui, alors, moi, je dois dire que quand j'ai une idée de roman, quand je commence un roman, même quand c'est un roman dit historique, je n'ai absolument pas l'idée de lancer un message. Alors là, c'est en dehors de... Mais il se trouve que chaque fois que j'ai abordé un sujet historique, je me suis rendu compte que dans l'histoire, on trouvait effectivement toujours soit des, je ne dirais pas des leçons de morale à tirer, c'est pas du tout ça, mais des exemples qui peuvent nous ramener au présent. Et par exemple, quand je me suis rendu compte, quand j'ai lu des extraits de journaux publiés au XVIIIe siècle sur, par exemple, ce qui se passait à Paris, j'ai été absolument ahuri, parce que c'était exactement, on aurait pu les prendre, les mettre dans le français actuel, et c'est exactement ce qu'on lit, ce qu'on entend à la radio, qu'il y avait des quartiers où on ne pouvait pas aller, que les jeunes qui étaient cultivés, qui avaient des diplômes, étaient obligés de se mettre au coin des rues pour devenir portefeuille, etc., etc. Et que la révolution, donc, était que les campagnes étaient, c'était la pauvreté, une pauvreté terrible, donc que la révolution allait venir. Donc, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? C'est la même chose. Donc, dans chaque fois que j'ai touché à des problèmes, aux problèmes que nous ont montré l'histoire, on retombe toujours dans les problèmes du présent. Alors je ne dis pas, hélas, qu'en tant que romancier, nous pouvons faire quelque chose là-dessus, mais peut-être qu'effectivement, lecteur, vous devriez lire beaucoup de romans historiques.
Bah écoutez, je pense que ça nous servira de conclusion à notre débat, puisque nous arrivons au terme du temps qui nous était imparti. Donc je tiens à remercier les quatre auteurs présents de nous avoir un peu éclairés sur leur travail. Et je vous encourage à les rencontrer sous la bulle du livre pour discuter de leurs ouvrages avec eux, éventuellement les acheter et les lire. Hein. C'est le plus grand bonheur qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup à vous. Merci, cher public.